vouloir le justifier de ses perfidies qui avivaient le plaisir en y mettant de l'alternance. Et plus il avait trompé n'importe laquelle des deux, plus elle l'aimait, comme si leurs amours se fussent échauffés réciproquement et que dans une sorte d'émulation, chacune eût voulu lui faire oublier l'autre. « Admire ma confiance, » lui dit un jour Madame d'Ambreuse en dépliant un papier où on la prévenait que M. Moreau vivait conjugalement avec une certaine Rose Bron. « Est-ce la demoiselle des courses, par hasard ?»« Quelle absurdité » reprit-il. « Laisse-moi voir. » La lettre, écrite en caractère romain, n'était pas signée. Madame d'Ambreuse, au début, avait toléré cette maîtresse qui couvrait leur adultère. Mais sa passion devenant plus forte, elle avait exigé une rupture, chose faite depuis longtemps, selon Frédéric. Et quand il eut fini ses protestations, elle répliqua, tout en clignant ses paupières, où brillait un regard pareil à la pointe d'un stylet sous de la mousseline. « Eh bien, et l'autre ?»« Quel autre ?»« La femme du faïencier. » Il leva les épaules dédaigneusement. Elle n'insista pas. Mais un mois plus tard, comme il parlait d'honneur et de loyauté, et qu'il vantait la sienne, d'une manière incidente, par précaution, elle lui dit « C'est vrai, tu es honnête, tu n'y retournes plus. » Frédéric, qui pensait à la maréchale, balbutia « Où donc ? Chez Madame Arnoux. » Il la supplia de lui avouer d'où elle tenait ce renseignement. C'était par sa couturière en second, Madame Roginbard. Ainsi, elle connaissait sa vie, et lui ne savait rien de la sienne. Cependant, il avait découvert dans son cabinet de toilette la miniature d'un monsieur à longue moustache. Était-ce le même sur lequel on lui avait conté autrefois une vague histoire de suicide ? Mais il n'existait aucun moyen d'en savoir davantage. À quoi bon, du reste ? Les cœurs des femmes sont comme ces petits meubles à secret, pleins de tiroirs emboîtés les uns dans les autres. On se donne du mal, on se casse les ongles, et on trouve au fond quelques fleurs desséchées, des brins de poussière ou le vide. Et puis, il craignait peut-être d'en trop apprendre. Elle lui faisait refuser les invitations où elle ne pouvait se rendre avec lui, le tenait à ses côtés, avait peur de le perdre, et malgré cette union chaque jour plus grande, tout à coup, des abîmes se découvraient entre eux, à propos de choses insignifiantes, l'appréciation d'une personne, d'une œuvre d'art. Elle avait une façon de jouer du piano, correcte et dure. Son spiritualisme, Madame d'Ambreuse croyait à la transmigration des âmes dans les étoiles, ne l'empêchait pas de tenir sa caisse admirablement. Elle était hautaine avec ses gens. Ses yeux restaient secs devant les haillons des pauvres. Un égoïsme ingénu éclatait dans ses locutions ordinaires. « Qu'est-ce que cela me fait ? Je serais bien bonne. Est-ce que j'ai besoin ?» Et mille petites actions inanalysables, odieuses. Elle aurait écouté derrière les portes. Elle devait mentir à son confesseur. Par esprit de domination, elle voulut que Frédéric l'accompagnât le dimanche à l'église. Il obéit et porta le livre. La perte de son héritage l'avait considérablement changé. Ces marques d'un chagrin qu'on attribuait à la mort de M. d'Ambreuse la rendaient intéressante, et comme autrefois, elle recevait beaucoup de monde. Depuis l'insuccès électoral de Frédéric, elle ambitionnait pour eux deux une légation en Allemagne. Aussi, la première chose à faire était de se soumettre aux idées régnantes. Les uns désiraient l'Empire, d'autres les Orléans, d'autres le comte de Chambord, mais tous s'accordaient sur l'urgence de la décentralisation et plusieurs moyens étaient proposés, tels que ceux-ci, couper Paris en une foule de grandes rues afin d'y établir des villages, transférer à Versailles le siège du gouvernement, mettre à Bourges les écoles, supprimer les bibliothèques, confier tout aux généraux de division. Et on exaltait les campagnes, l'homme illettré ayant naturellement plus de sens que les autres. Les haines foisonnaient, haine contre les instituteurs primaires et contre les marchands de vin, contre les classes de philosophie, contre les cours d'histoire, contre les romans, les gilets rouges, les barbes longues, contre toute indépendance, toute manifestation individuelle. Car il fallait relever le principe d'autorité, qu'elle s'exerça au nom de n'importe qui, qu'elle vint de n'importe où, pourvu que ce fût la force, l'autorité. Les conservateurs parlaient maintenant comme Sénégal. Frédéric ne comprenait plus. Et il retrouvait chez son ancienne maîtresse les mêmes propos dépités par les mêmes hommes. Les salons des filles, c'est de ce temps-là que date leur importance, étaient un terrain neutre, où les réactionnaires de bords différents se rencontraient. Hussonnet, qui se livrait au dénigrement des gloires contemporaines, bonne chose pour la restauration de l'ordre, inspira l'envie à Rosanette d'avoir, comme une autre, ses soirées. Il en ferait des comptes rendus, et l'amena d'abord un homme sérieux, Fumichon. Puis, parurent Nonancourt, M. de Grémonville, le sieur de l'Arcillois, ex-préfet, et Sisy, qui était maintenant un grand homme, bas-breton et plus que jamais chrétien. Il venait en outre d'anciens amants de la maréchale, tels que le baron de Comyn, le comte de Jumillac et quelques autres. La liberté de leurs allures blessait Frédéric. Afin de se poser comme le maître, il augmenta le train de la maison. Alors on prit un groom, on changea de logement et on eut un mobilier nouveau. Ces dépenses étaient utiles pour faire paraître son mariage moins disproportionné à sa fortune. Aussi diminuait-elle effroyablement, et Rosanette ne comprenait rien à tout cela. Bourgeoise déclassée, elle adorait la vie de ménage, un petit intérieur paisible. Cependant, elle était contente d'avoir un jour, disaient ces femmes-là, en parlant de ses pareils. Voulait être une dame du monde, s'en croyait une. Elle le pria de ne plus fumer dans le salon, essaya de lui faire maigre par bon genre. Elle mentait à son rôle enfin, car elle devenait sérieuse et même, avant de se coucher, montrait toujours un peu de mélancolie, comme il y a des cyprès à la porte d'un cabaret. Il en découvrit la cause, elle rêvait mariage, elle aussi. Frédéric en fut exaspéré. D'ailleurs, il se rappelait son apparition chez Madame Arnoux, et puis il lui gardait rancune pour sa longue résistance. Il n'en cherchait pas moins qu'elles avaient été ses amants. Elle les niait tous. Une sorte de jalousie l'envahit. Il s'irrita des cadeaux qu'elle avait reçus, qu'elle recevait. Et à mesure que le fond même de sa personne l'agaçait davantage, un goût des sens âpres et bestiales l'entraînait vers elle, illusion d'une minute qui se résolvait en haine. Ses paroles, sa voix, son sourire, tout vint à lui déplaire, ses regards surtout, cet œil de femme éternellement limpide et inepte. Il s'en trouvait tellement excédé quelquefois qu'il l'aurait vu mourir sans émotion. Mais comment se fâcher? Elle était d'une douceur désespérante. Deslauriers reparut et expliqua son séjour à Nogent en disant qu'il y marchandait une étude d'avoué. Frédéric fut heureux de le revoir. C'était quelqu'un. Il le mit en tiers dans leur compagnie. L'avocat dînait chez eux de temps à autre, et quand il s'élevait de petites contestations, se déclarait toujours pour Rosanette, si bien qu'une fois, Frédéric lui dit « Eh, couche avec elle si ça t'amuse !» tant il souhaitait un hasard qui l'en débarrassa. Vers le milieu du mois de juin, elle reçut un commandement où maître Athanase Gautreau, huissier, lui enjoignait de solder 4 000 francs dus à la demoiselle Clémence Vatnaz, sinon qu'il viendrait le lendemain la saisir. En effet, des 4 billets autrefois souscrits, un seul était payé. L'argent qu'elle avait pu avoir, depuis lors ayant passé à d'autres